L'image classique de la chute d'un grand empire, c'est généralement du grand spectacle. Des armées immenses, des murs de pierre qui s'effondrent sous les tirs de catapultes. C'est brutal, c'est très visuel, quoi.
Ouais, l'histoire adore les repères clairs. Quand une superpuissance tombe de cette manière, on aime bien pouvoir pointer du doigt le moment précis où tout a basculé.
Sauf que pour notre exploration d'aujourd'hui, on va faire voler cette image en éclats. L'objectif, c'est pas de faire un simple cours d'histoire sur l'Antiquité.
Non, c'est clair. On va plutôt décortiquer une mécanique beaucoup plus insidieuse en se basant sur les notes de la 23e session d'enseignement du Dr John Oswalt.
Il y analyse les chapitres 47 et 48 du livre d'Ésaïe, c'est bien ça?
Exactement. Et ce qui démontre, c'est que la vraie chute commence bien avant que le premier mur ne cède. Le contexte de base, c'est le peuple de Juda, qui est en exil, écrasé par la superpuissance absolue de l'époque, Babylone.
Mais au-delà de l'aspect historique, ce qui est fascinant, c'est qu'on assiste surtout à un effondrement psychologique. Enfin, pour être plus précise, à l'effondrement d'un ego collectif.
C'est tout à fait ça. Et c'est ce qui rend cette grille de lecture étonnamment moderne.
Oui, parce qu'on va parler de l'arrogance du pouvoir, de la futilité de vouloir se venger soi-même, et aussi du danger d'une spiritualité purement de façade. Des pièges dans lesquels les gens et nos sociétés tombent constamment aujourd'hui.
Et pour bien comprendre, il faut regarder comment le texte décrit cette fameuse chute de Babylone. Il n'utilise pas de termes militaires du tout.
Il utilise une métaphore hyper saisissante, non? Celle d'une reine délicate et choyée.
C'est ça. Le basculement des cris est absolu. La nation qui se voyait comme une reine intouchable, habituée au luxe, est soudainement réduite à la condition d'esclave.
C'est une humiliation totale.
Complètement. Le texte dépeint cette ancienne souveraine obligée de tourner les lourdes meules de pierre pour moudre le grain. Elle doit retirer son voile, relever sa robe et traverser les rivières les jambes nues.
Ce qui, dans le contexte de l'époque, est une perte de dignité viscérale. On passe vraiment de la soie la plus fine à la boue glacée des rivières.
C'est brutal, oui.
Mais une chute aussi vertigineuse, ça sort pas de nulle part. Si on ramène ça à notre époque, c'est un peu comme observer une immense multinationale hyper arrogante.
Genre la boîte qui pense être invincible parce qu'elle écrase toute la concurrence.
Exactement, elle domine le marché, sauf que tout son succès repose sur une technologie complètement obsolète. Et quand la réalité la rattrape, paf, le PDG intouchable finit par devoir faire des ménages dans les bureaux de l'ancienne petite start-up qu'il méprisait.
Il y a forcément une faille structurelle à la base pour que ça arrive. Et cette faille, pour Babylone, c'est l'idolâtrie.
C'est-à-dire ?
Ils pensaient avoir les meilleurs dieux.
Voilà, ils pensaient que leur domination était garantie par leur divinité. Mais l'analyse du Dr Oswalt va plus loin que la religion. Il explique la mécanique psychologique derrière ça.
Et c'est quoi cette mécanique ?
L'idolâtrie, c'est construire son pouvoir sur une projection de soi-même. Leur dieu était non seulement inefficace face à la réalité, mais c'était un fardeau qui les rendait aveugles. Donc, la règle qui s'en dégage, c'est que s'élever soi-même de façon arrogante, ça mène inévitablement à l'humiliation. Les gagnants perdent et les perdants gagnent.
C'est exactement le principe. Les systèmes construits uniquement sur l'ego sont par nature instables.
Bon, si cette chute est inévitable à cause de cette instabilité, ça soulève quand même un énorme problème pratique pour les peuples opprimés, non ?
Tu penses à quoi précisément ?
Imagine les exilés qui voient l'Empire vaciller. La tentation naturelle, immédiate, c'est de vouloir y participer, de prendre une brique et de frapper pour rendre les coups.
Ah oui, le fameux besoin de revanche. C'est un des points centraux de l'analyse qui fait une distinction majeure entre la vengeance humaine et la justice.
C'est quoi la différence dans ce contexte ?
Le texte explique que la vengeance divine, c'est une punition juste, parce qu'elle est exécutée par une autorité extérieure et objective.
Et la vengeance humaine, du coup ?
La vengeance humaine, c'est une tentative égoïste de se réparer soi-même.
C'est paradoxal, parce que quand on agit pour réparer son ego blessé, on a souvent l'impression de reprendre le contrôle de la situation.
C'est une illusion totale, et ça crée un engrenage destructeur. Oswalt cite l'observation frappante d'un journaliste qui bossait au Liban.
Ah oui, l'histoire du cycle de la violence.
Exactement. Après des années à observer des conflits, ce journaliste résume le cycle infernal comme ça. Tu me casses le doigt, je te casse le poignet. Tu me casses le poignet, je te casse le bras.
L'escalade sans fin, quoi.
C'est ça. Puis le cou, puis la tête. Ensuite, je tue ta femme, tes enfants, et enfin, je détruis ta nation. La vengeance n'a pas de point d'arrêt parce qu'elle cherche à apaiser une blessure intérieure qui est insatiable.
Je comprends la mécanique infernale, mais pour me faire l'avocate du diable, ça reste incroyablement contre-intuitif pour quelqu'un qui souffre.
C'est difficile à accepter, oui.
S'entendre dire qu'il faut simplement attendre la justice sans répliquer, c'est comme regarder un match sportif où l'équipe adverse passe son temps à faire des fautes graves.
Ouais, je vois l'idée.
Si on dit aux joueurs lésés d'attendre sagement que l'arbitre, qui a l'air de regarder ailleurs, finisse par siffler, ben la frustration monte. Et si les joueurs décident de se faire justice eux-mêmes, de rendre les coups...
Ça ne ressemble plus à du sport.
Voilà. Ça se transforme direct en émeute sanglante.
C'est une très bonne analogie. En reprenant le contrôle de cette façon, les opprimés descendent au même niveau moral que l'oppresseur. Ils deviennent partie prenante du chaos.
Mais pour comprendre pourquoi il ne faut surtout pas devenir comme Babylone, il faut d'abord saisir pourquoi ils ont été si cruels à la base. C'était pas juste une stratégie militaire, non ?
Non, l'oppression démesurée est-elle symptôme d'un complexe de supériorité absolue, un truc très ancré dans la nature humaine déchue. Babylone déclare textuellement « Je suis et il n'y a personne d'autre que moi ».
Waouh, c'est la définition même du narcissisme absolu.
Complètement.
Si tu te dis « Je suis et il n'y a personne d'autre », tu peux tout justifier. Le confort, la vie ou la dignité des autres, ça devient juste des variables d'ajustement pour ton propre bien-être. C'est littéralement le slogan de l'individualisme contemporain.
On pourrait l'imprimer sur un t-shirt, ouais.
C'est clair. Ça résume parfaitement la culture de l'autopromotion permanente.
Et c'est exactement le diagnostic de l'analyse. S'attribuer le « je suis », c'est usurper l'identité divine. C'est se déclarer le centre de l'univers. Or, le texte oppose ce complexe de Dieu à ce qu'il appelle la véritable crainte de l'Éternel.
Et Oswald précise un point fondamental là-dessus, non ? Parce que ce mot « crainte » est souvent mal compris.
Tout à fait. Il explique que cette crainte n'est pas une peur panique, ni la terreur d'être foudroyé par un dieu tyrannique à la moindre erreur.
Alors, psychologiquement, comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qui empêche l'humain de sombrer dans ce complexe de Dieu ?
Le sens de la redevabilité. L'enseignement l'illustre avec une image super forte. Imagine un père qui a une force physique largement supérieure à celle de son enfant.
D'accord.
Dans des moments de colère, il pourrait être tenté de laisser libre cours à ses pulsions les plus sombres. Mais la véritable crainte, c'est la conscience aiguë de ce père qui réalise « cet enfant ne m'appartient pas ».
Ah, je vois. Il n'est pas sa propriété.
C'est ça. Il se dit « il ne m'a pas été donné pour satisfaire mes envies. Il m'a été confié et un jour je devrais rendre des comptes à une instance supérieure sur la façon dont je l'ai traité ».
C'est la reconnaissance qu'on n'est pas le maître absolu de la réalité. Ça introduit une vraie limite éthique à l'exercice du pouvoir.
Exactement. Mais Babylone refusait catégoriquement cette limite.
Ce qui m'amène à une contradiction assez dingue. Si Babylone se prenait réellement pour l'entité suprême, pourquoi l'analyse souligne qu'ils avaient une obsession maladive pour les présages et la magie ?
Ah !
Je veux dire, s'ils maîtrisaient tout, ils ne devraient pas avoir besoin de chercher des signes dans les étoiles, si...
C'est parce que le besoin frénétique de contrôle trahit toujours une angoisse profonde. L'ego sait, secrètement, qu'il est fragile.
Donc c'était une façade.
Totalement. Pour maintenir l'illusion d'être omnipotente, il s'appuyait sur l'accumulation obsessionnelle de savoir et de magie. L'Empire possédait 70 volumes de textes uniquement dédiés aux présages.
70 volumes ? C'est énorme.
C'était l'équivalent d'un véritable doctorat à Babylone en manipulation de l'avenir.
C'est fou.
C'est l'ancêtre de la suranalyse de données de notre époque.
La dynamique est identique. La magie les attirait parce qu'elle offrait la promesse de pouvoir manipuler les événements à leur avantage.
Sans demander d'engagement personnel en retour, je suppose. Voilà, aucun engagement moral ou relationnel. Tu maîtrises la technique, tu appliques la formule, tu as le résultat. Mais le texte est catégorique. Ce type de savoir, quand il sert juste à gonfler l'ego, est stérile.
Il ne protège de rien au final.
Il ne peut ni sauver de la ruine, ni apporter de réconfort. Face à la vraie crise, ce savoir accumulé brûle comme de la paille.
La comparaison avec aujourd'hui est vraiment frappante. On retrouve cette même illusion de contrôle par la technique.
Ah oui ? Dans quel domaine tu vois ça ?
Ben, ce doctorat en présage, c'est la création de l'algorithme financier le plus sophistiqué du monde actuel.
Ouais, je vois l'idée.
Une boîte peut dépenser des milliards pour analyser chaque micro-variation du marché, persuader qu'elle maîtrise l'avenir grâce aux maths, et cet algorithme titanesque finit par être totalement incapable de prédire le seul crash boursier irrationnel qui va tout détruire.
La technique ne protège pas de l'imprévu. Et quand l'imprévu survient, le texte annonce un choc brutal. Un renversement total des destins.
C'est-à-dire une inversion complète entre l'oppresseur omnipotent et le captif vaincu.
C'est ça. Le texte utilise des métaphores liées à la structure familiale antique. Babylone, la majestueuse reine, va perdre ses enfants et devenir veuve en un seul jour.
c'est la perte de toute sa sécurité.
La protection et le futur disparaissent d'un coup. Et à l'inverse, la prophétie s'adresse à Israël, qui vivait son exil avec le sentiment d'être une femme stérile et abandonnée.
Et que dit la prophétie pour eux ?
Le texte annonce qu'elle aura soudainement plus d'enfants qu'elle ne saura qu'en faire, car son mari n'est autre que le divin.
Le contexte temporel de cette annonce crée un contraste d'un humour noir absolument cinglant.
Comment ça ?
Historiquement parlant, ces paroles sont prononcées au moment même où l'empereur Nebuchadnezzar bâtit les jardins suspendus de Babylone, une des merveilles du monde. L'empire est à son apogée.
Ah oui, le décalage est énorme.
Imagine l'absurdité de la scène pour les exilés. Ils sont dans la boue de la rivière, en train de frotter péniblement le linge de leur maître, et le prophète leur annonce en substance que la reine qui se prélasse dans les jardins suspendus va bientôt descendre dans la boue pour faire la lessive avec eux.
Ça devait paraître complètement délirant, inaudible rationnellement.
C'est clair. Mais puisque ce renversement est géré par une instance supérieure, on pourrait s'attendre à ce qu'on demande aux exilés de préparer une insurrection militaire. Or, leur plus grand défi n'est pas d'agir.
Exactement. Leur plus grand défi, c'est de prêter attention. Le mot « écouter » ou « entendre » apparaît 10 fois rien que dans le chapitre 48.
10 fois. C'est une insistance assez dingue.
C'est clinique. Oswald utilise l'anecdote d'un parent face à un enfant souffrant de TDAH, le trouble du déficit de l'attention, pour illustrer ça.
L'enfant à qui on ne peut pas simplement donner une directive globale.
Tout à fait. Le parent doit décomposer chaque action. Regarde-moi, écoute-moi, répète. Je vais me brosser les dents. Maintenant, écoute. Tu vas te déshabiller.
Faut exiger l'attention à chaque étape.
Et si le texte martèle le mot « écouter » 10 fois, c'est pour souligner qu'Israël souffrait d'un déficit d'attention spirituelle massif. Le problème, c'était pas leur audition physique, c'était une foi devenue purement superficielle.
Donc, une foi qui s'affiche mais qui ne s'incarne pas au quotidien.
Ils revendiquaient le nom de la ville sainte. Ils cochaient les cases de la religion, mais il n'y avait aucune relation réelle avec le divin. L'analyse compare ça à ceux qui, aujourd'hui, se disent méthodistes d'abord et chrétiens ensuite.
L'institution prend le pas sur la relation. On voit ça constamment dans notre culture moderne, cette appropriation des symboles sans en connaître le sens.
T'as un exemple en tête ?
C'est comme quelqu'un qui porte fièrement un t-shirt vintage d'un groupe de rock mythique juste parce que le logo est beau. Mais si on lui demande de nommer une seule de leurs chansons, il en est incapable.
Il porte les couleurs, mais il connaît pas la musique.
C'est exactement ça. Mais attends, si leur foi était si superficielle que ça, pourquoi le texte annonce quand même leur libération ? S'ils n'ont pas la substance, ils ne méritent pas vraiment d'être sauvés, si ?
Ah, c'est là qu'intervient le concept central de la grâce dans ces chapitres. La libération annoncée n'est pas une récompense pour bonne conduite.
D'accord.
Ce n'est même pas le résultat d'une repentance parfaite. La grâce émane uniquement du caractère intrinsèque du divin. Le texte rappelle un vieil épisode où Moïse dit à l'Éternel de penser à sa propre réputation devant les autres nations.
Donc le divin agit pour son propre nom.
Voilà, par fidélité à sa propre nature de racheteur et non parce que le peuple aurait soudainement accumulé des bons points.
Une intervention basée sur la nature de celui qui sauve, pas sur le mérite de celui qui est sauvé. C'est très fort.
Absolument.
Mais alors ? S'ils n'ont rien à faire pour mériter cette libération, pourquoi cette urgence absolue, répétée 10 fois, de devoir écouter maintenant ? C'est quoi le risque concret s'ils n'écoutent pas ?
Le risque, c'est de complètement rater une nouveauté radicale. L'enseignement aborde ici la notion de création. Et dans ce contexte, créer, ça ne signifie pas réarranger ce qui existe déjà.
C'est faire du neuf à partir de rien.
C'est ça. Le plan divin ne va pas se contenter de répéter l'histoire politique. Il s'apprête à briser des précédents vieux de plusieurs millénaires.
Attends, quel précédent ? L'histoire du Moyen-Orient antique semblait être un cycle sans fin de conquête.
Justement, c'est la méthode de conquête qui est bouleversée. Pendant 700 ans, les Assyriens puis les Babyloniens ont fondé leur stratégie sur la déportation. On arrache les peuples de leurs terres pour casser les rébellions.
C'était la norme géopolitique de l'époque.
La règle incontestable. Et puis vient Cyrus, le roi perse. Il renverse Babylone et qu'est-ce qu'il fait ? Il détruit ce précédent historique.
Il ne déporte pas les gens ?
Non seulement il renvoie les captifs chez eux, mais en plus il va jusqu'à financer la reconstruction de leur temple avec l'argent de son propre empire.
Mais c'est un choc cognitif total pour l'époque. C'est d'une telle absurdité stratégique.
C'est du jamais vu.
Si on transposait ça aujourd'hui, ce serait comme si une superpuissance militaire écrasait totalement un pays rival et d'un coup, sans aucune raison, décidait de retirer ses troupes et de rembourser l'intégralité de la dette nationale du vaincu.
C'est fou, hein ?
Aucun expert en relations internationales ne pourrait anticiper ou expliquer logiquement un mouvement pareil.
Et c'est précisément pour ça que le texte insiste sur le fait que le divin a annoncé cet événement inouï à l'avance.
Pour prouver que c'était son plan.
Pour qu'aucune idole, aucun astrologue babylonien ne puisse en prendre le crédit en prétendant l'avoir deviné dans les étoiles. Face à une telle rupture, le message final adressé aux captifs est hyper impératif.
Qui est « Refusez de vous installer ».
Ne devenez pas de bons babyloniens, soyez prêts à partir.
Refuser l'assimilation à un système voué à l'autodestruction, on touche vraiment à la synthèse de tout ce qu'on vient d'explorer aujourd'hui.
Tout à fait.
D'un côté, on observe l'arrogance d'une Babylone obsédée par le contrôle total, noyée dans ses volumes de pressages pour tenter de sécuriser son ego.
Et qui finit par s'effondrer sous le poids de sa propre illusion.
Voilà. Et de l'autre, on a cette invitation paradoxale faite à un peuple captif et très superficiel, essaie, prêter attention, écouter vraiment et se tenir prêt à accueillir une nouveauté radicale et une grâce imméritée.
Et cette dynamique, elle est loin de se limiter au texte antique, tu fais. Le renouveau inattendu continue de bousculer les pronostics.
Oswald donne un exemple contemporain de saint.
Oui, il illustre ça avec une observation sociologique qu'il a lue dans un magazine, dans une salle d'attente. Ça parlait d'un basculement démographique massif aux États-Unis.
Ah oui ? De quel genre ?
D'ici 2025, une grande proportion de la population latino-américaine, historiquement très ancrée dans le catholicisme, est en train de basculer vers le protestantisme évangélique.
Waouh ! C'est énorme comme mouvement.
C'est un mouvement tectonique, ouais. Ça échappe complètement au modèle prédictif classique. Ça prouve que l'inattendu et le renouveau continuent de surgir là où la sagesse bien établie ne les attend pas.
L'histoire échappe toujours à ceux qui croient pouvoir la calculer pour se révéler à ceux qui savent prêter attention.
C'est une belle façon de résumer.
Ça nous amène d'ailleurs à une dernière question fascinante pour prolonger cette réflexion. Si nous consacrons toute notre énergie à construire notre identité professionnelle et personnelle pour être de parfaits bons babyloniens,
c'est-à-dire
en nous adaptant minutieusement à une culture qui glorifie l'autopromotion, le besoin de tout contrôler et la suranalyse frénétique du moindre risque, quelle chose radicalement nouvelle, quelle transformation inattendue sommes-nous peut-être en train de rater?
C'est la vraie question.
Tout simplement parce que, dans ce brouhaha de contrôle, nous avons peut-être oublié comment écouter. L'empire de notre propre ego finira peut-être par s'effondrer, non pas sous les coups d'un ennemi, mais dans l'incapacité d'entendre ce qui compte vraiment. C'est sur cette réflexion qu'on va clore notre plongée d'aujourd'hui. Merci à tous et à très vite.